Bonjour, bonsoir. Eh oui, nous ne sommes pas lundi, nous sommes un milieu de semaine, un mercredi, après une petite journée, 24 heures, un petit peu moins, 22 heures d'une qualification. À l'heure où on vous parle, Manchester City vient d'ouvrir le score contre Copenhague. Quelle surprise, me direz-vous. En même temps, on a Real Madrid, Leipzig qui a commencé également. Voilà. Donc, si jamais il y a des dingueries, on pourra faire une alerte but en temps réel. Mais on est principalement là, et c'est assez rare pour le signaler, pour débriefer une qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions.
On aurait pu dire une victoire.
C'est vrai qu'une victoire à l'extérieur, déjà, c'est quelque chose, assez
Une
rare
victoire toute
cette
simple.
saison.
Ça, depuis deux, trois semaines, vous connaissez plus trop ça, non? C'est
Bah
ça.
ça, là la victoire, la grosse victoire à l'extérieur, là comme ça remonte à 2021, quoi, Barça PSG, quoi.
Bah non, celle d'après, le Bayern, au Bayern, on avait gagné 3-2 sous la neige. Mais avant d'aller plus loin, vous avez entendu leurs 12 voix. Ah, j'ai envie de dire le pilier, comme je l'appelle aussi bien, c'est le Carlos Miller qui est toujours là pour m'accompagner dans les pérégrinations. Ça va, mon Carlos?
Eh ben écoute, ça va. Pourquoi tu me fais un accent du sud-ouest? Je suis bourguignon d'origine. Nom de glu! Qu'est-ce que tu me fais? Ah, mais ça va bien. Écoutez, on va pouvoir parler d'un événement exceptionnel. Paris a gagné un match hier soir. Donc, Luis Enrique n'est pas une biquette. Hein. Ça a l'air d'être un entraîneur qui sait faire de la tactique.
Ah
Donc, on va pouvoir en discuter ce soir.
ben. Ouais, exactement. On pourra en discuter parce que c'est vrai que quand tu vois que Jérôme Rothen, dans son émission Rothen sans flamme, juste avant le match, faisait des débats, faut-il virer Luis Enrique? Je pense que Paris va le garder encore quelques temps. Hein.
Ah, et puis c'est pas encore le pire.
Non, non, non. Et notre troisième larron, il fait son retour. Comme les victoires de Paris, justement, en phase finale de Ligue des Champions, il se fait aussi rare et on est très heureux de l'accueillir. C'est Edinson Cavani qui revient. Ça va, mon Edinson?
Et salut tout le monde, et oui, grand retour sur Barbecue Foot après avoir fait un petit détour sur les routes de l'Estrade Bianche et de Paris-Nice. Me revoilà du côté de Barbecue Foot.
Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, Paris-Nice, c'est pas juste un quart de finale de Coupe de France, c'est aussi une course de vélo. Donc, on vous conseille d'aller l'écouter sur toutes les plateformes. De façon,
Sur notre flux.
voilà, de façon, Carlos nous fera un petit débrief là-dessus. Oh là 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 là, mais allez, Leipzig, vous méritez pas de passer, quoi. Ouais, il y a eu un raté exceptionnel de Šeško. Il est meilleur sur Football Manager que dans la réalité, lui, hein, en tout cas. Allez, on est parti sur ce petit débrief on essaiera de pas faire plus d'une demi-heure, parce que je pense que vous avez déjà eu votre lot de débriefs ici ou là, plus ou moins intéressants. Alors, par contre, si vous avez regardé celui de la chaîne L'Équipe ou écouté celui de RMC hier soir, bon, c'était juste pour boire le seum des journalistes qui en parlaient, parce que c'est toujours un régal, hein. Écouter la chaîne L'Équipe quand Paris se qualifie, ça reste des grands moments. Vous conseille, si vous êtes supporter parisien, vu qu'il y a la qualif, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes chill.
D'éviter des gens comme des gens dont les noms commencent par I et finissent par l'O, parce qu'ils disent quand même pas mal de grosses saucisses.
Ouais.
C'est pas la peine de les écouter. Vous faites pas des ulcères à l'estomac, venez chez nous, on est plus calme, hein, et en plus on gueule pas,
Non.
et on dit des choses à peu près sensées.
Non. Ouais. À peu près.
Et en plus, on a le même nom, hein, enfin la même
Mais
nous sommes les vrais. Nous sommes les vrais. Nous, on pratique la vraie charcuterie. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour ce match. Ce petit débrief. Bon, on va dire, on a passé un petit peu de temps à se faire peur, mais comme prévu, on va dire, avec si on regarde les matchs de la Real Sociedad de ces dernières semaines, bah, finalement, on a eu le match de la Real qu'on attendait. Là où il y a eu quelque chose d'un peu plus surprenant, c'est plutôt le match de Paris, tout du moins les 60 premières minutes. Était excellente. Je pense que cette première mi-temps est pas loin d'être la meilleure mi-temps de Paris de la saison. Il y avait tout, super bien orchestré. Il y a eu un changement de tactique. On va en parler de la part de Luis Enrique qui a repositionné Dembélé au milieu de terrain, ce qui a eu pour conséquence de totalement perdre nos amis basques. Sur les 30 premières minutes où les joueurs ne savaient pas trop se positionner. Des joueurs qui devaient démontrer des choses ont démontré des choses, ont pris leurs responsabilités comme ils le disaient en 2019. Et défenseurs centraux qu'on avait vu sur le côté, replacés au milieu, qui ont fait un match vraiment très 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 très, très bon. Voilà, donc pareil, hein, après ce manière un petit peu plus globale, on parlera des cas individuels. Bah, je vais commencer par Edinson. Ton ressenti après sur le match de manière globale, content juste de la qualif, de ce que tu as vu, tu mets un petit bémol sur les 30 dernières minutes, ton avis?
Franchement, de manière générale, c'est un match qui est plutôt maîtrisé de la part des Parisiens, ce qui est quand même très rare de voir un match maîtrisé du bout en bout. Bon, excepté la fin de match, bien sûr, qui a été un peu en dents de scie, mais il faut les comprendre, hein, parce que 2-0, t'es quand même en bonne position, tu sais ce qui s'est passé à United, Real, n'en parlons pas, donc soyons honnêtes pour cette fin de deuxième mi-temps. Moi, franchement, ça me déçoit pas tant que ça, en tout cas, qu'il y ait eu un relâchement des Parisiens. Et puis, en général, bah oui, performance globale maîtrisée. Alors, bien sûr, il y a eu certaines individualités qui ont manqué, et on va remercier un grand Kylian Mbappé qui, comme tu l'as dit, a pris les responsabilités, qui fait taire toutes les polémiques, autour de lui, et il est bel et bien joueur parisien. Alors attention, ça n'excuse pas tout, hein. Ce qui s'est passé à Monaco reste inadmissible, bien sûr, mais voilà, c'est quand même la réaction d'un grand champion. Je pense qu'on peut le dire, c'est la réaction d'un grand champion ce soir, un grand compétiteur qui, au passage, est deux fois homme du match sur les deux rencontres. Ça aussi, c'est pas mal non plus, hein. Et puis voilà, hein, Kylian Mbappé qui, encore au passage, devient le meilleur buteur actuellement de la compétition pour le moment. Donc c'est assez rassurant sur son état de forme et sur son implication. Et puis voilà, en général, performance maîtrisée. J'ai bien aimé la défense, hein, l'association entre Beraldo et puis Hernandez, avec le retour de Nuno Mendes. C'est à noter qui petit à petit reprend son niveau. Donc franchement, je suis satisfait. Enfin, le PSG a maîtrisé ces deux confrontations et j'ai hâte de voir la suite.
Carlos, des choses à ajouter sur ce bon premier brief d'Edinson?
Non, je pense qu'il a dit quand même pas mal de choses. Après, on va pouvoir parler aussi peut-être un peu des recrues, des adaptations, de ce qui a été mis en place aussi cette intersaison pendant l'été et l'hiver. Il y a quand même des très bonnes intégrations dans cette équipe. C'est aussi ça qui change un peu à Paris, en fait. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et on en avait déjà un petit peu parlé lundi, mais c'est aussi la rotation des joueurs. Et je trouve encore une fois, comme pour Monaco, en fait, le point positif de Paris, c'est qu'ils ont tenu 90 minutes. Alors, c'était la Real Sociedad, mais je trouve que la rotation de jeu et la rotation des joueurs fait que tu arrives à imprimer un rythme et à maintenir ce rythme pendant tout un match, et ça, c'est super intéressant.
Voilà. C'est vrai qu'on avait vu que c'était déjà un des points forts de Paris le niveau physique, parce qu'on est que sur tous les derniers matchs, tous les adversaires finissaient assez cramés vers la 60e minute, et c'est à ce moment-là que Paris cliquait et finissait généralement les matchs en trombe. Là, ça a été finalement un petit peu l'inverse. Paris, c'est après le deuxième but à la 55e. Alors, le but, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez forcément vu,
oui.
Un petit bijou de plus de 50, une possession d'à peu près 50 secondes, 16 passes, il y a tout eu. Et justement, tu parlais de Kylian. J'ai été de ceux qui étaient très virulents à son encontre, et je pense de manière normale. Mm-hmm. Là, j'ai vu le Kylian que je voulais voir, qui était impliqué, qui ne faisait pas de fioritures, qui était collectif, qui a fait les replacements défensifs qu'il fallait en faisant quelques pressings. Je lui demande pas de faire du Edinson Cavani de la grande époque, mais au moins quelques pressings, au moins se mettre sur les trajectoires de passe pour couper les relances faciles. Voilà, être impliqué, faire des passes. Comme on l'a tous vu, une des premières occasions, il déborde sur le côté. Les matchs d'avant, il aurait fait son truc et il aurait frappé au but. Là, il a essayé de chercher. Et il y a eu une première action pour Barcola qui rate parce que tout du moins il dévie le ballon et le gardien la stop. Mais voilà, il y a eu plein de choses. Il ne peut pas s'empêcher de faire ses petites talonnades. Il en a réalisé deux ou trois. Il y en a une qui a été de bonne aloi. Il y en a une un petit peu moins. Bon, après, c'est Kylian, il ne peut pas s'en empêcher. Mais en tout cas, il s'est mis au service du collectif. Il a eu les ballons en profondeur en faisant les appels qu'il fallait. Et il met le but. Donc, à un moment... Voilà, après, quand tu te mets au service du collectif, le collectif te le rend, et j'ai entendu sur un podcast, et je suis tout à fait de cet avis, c'est que si Kylian, ok, il a marqué 30 et quelques buts sur ce début de saison, enfin sur cette saison, sur cette moitié de saison, il pourrait en marquer le double s'il jouait comme il a joué hier soir, au service du collectif.
On avait dit aussi lundi, c'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut de Kylian Mbappé, il ne s'est jamais défaussé sur un match important. Je pense que la gestion...
Il y a des matchs sur la phase de groupe, c'est quand même pas exceptionnel. Sur les six matchs...
Oui, mais regarde les matchs vraiment importants. Une finale de Coupe du Monde, regarde ce qu'il est capable de faire.
Il joue pas avec le Paris Saint-Germain.
Et même tu vois, mais je trouve que... On peut lui reprocher tout un tas de choses, mais il y a vraiment ce côté. Moi, ce qui m'impressionne chez ce garçon, c'est que je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde, mais il y a quand même eu des commentateurs, des gens qui se disent journalistes sportifs et commentateurs sportifs, qui ont mis des brouettes de caca sur la tête de Luis Enrique, et je trouve. Je le dis quand même, je le dis haut et fort, on est peut-être un des seuls médias à le dire, je trouve que la gestion des Nike par rapport à l'effectif global de Paris et même par rapport à été très bonne, je veux dire, pas forcément excellente, mais très bonne, que la gestion d'effectifs, en fait, on va pas citer quelqu'un qui se prétend être sur un grand média national et qui ne comprend pas pourquoi, en fait, Luis Enrique fait autant tourner son effectif. On s'est plaint les années précédentes que Paris Saint-Germain avait 30, 40 joueurs, qu'ils n'arrivaient pas à les faire entraîner tous ensemble, que c'était. Là, on voit que l'effectif a été vraiment resserré, ça fait quelque part deux saisons. Je trouve que et en fait, tu as un vrai groupe de 20 joueurs qui s'est densifié. Tu t'aperçois que Carlos Soler, excusez-moi, mais qui n'est pas le meilleur joueur de Paris. Mais en fait, quand il rentre, il est concerné et en plus, il apporte une vraie plus-value à l'effectif avec ses capacités qui sont peut-être un peu plus limitées que d'autres joueurs. mais tu t'aperçois qu'en fait, il est vraiment bon sur un poste de milieu un peu relayeur. Il a vraiment une patte technique. Tu t'aperçois que quelqu'un... Enfin, tu vois, par exemple, la gestion des défenseurs centraux, Lucas Hernandez, c'est ce qu'on s'est dit, il ne s'est pas pété pour l'instant et c'est bien. C'est vraiment très bien parce que c'était pas forcément... Enfin, tu vois, il a fait quand même toute une saison. Il a le fait de pouvoir prendre Beraldo a été aussi une bonne pioche.
C'est franchement, heureusement qu'il a été pris au mercato.
Ah oui.
Cela, je ne sais pas comment on aurait fait.
Et en plus, tu t'aperçois qu'au départ, il voulait le prendre un peu comme arrière-gauche, mais du coup, lui, il le met un peu stopper gauche, ce qui permet de faire un peu, on va dire, reposer pas mal de gens.
Alors, Danilo, c'était un peu pété. Normalement, c'était le backup de Lucas. Hein.
C'est ça. Oui, mais du coup,
qui est défenseur central gauche, parce qu'aujourd'hui, Lucas, c'est le cas. Hein. On l'a vu en comparaison avec Nuno Mendes. Maintenant, Lucas, il est quand même plus défenseur axial que. Ou alors dans cette position hybride de latéral inversé, comme on appelle sur Football Manager, où tu montes arrière latéral et finalement, tu te réaxes avec l'autre arrière latéral qui, lui, monte plus au milieu de terrain. Dans l'occurrence
et ce que je trouve aussi super intéressant de l'équipe, on va dire, médicale et aussi un peu des préparateurs physiques, c'est le cas de Nuno Mendes, qui a réussi à revenir un peu au bon moment. Tu t'aperçois que reprendre encore un défenseur latéral, ça va permettre de refaire encore une plus grande rotation. Je pense que Marquinhos et Danilo, c'est pas forcément grand chose ce qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir revenir. Et tu t'aperçois qu'à droite, tu peux tourner entre Mukiele, Hakimi, et tu t'aperçois que même quelqu'un comme Warren peut aussi jouer arrière-droit et du coup amener une sorte de rotation, et tu retrouves une défense sur laquelle tu vas pouvoir gérer le physique, qui est quand même extrêmement important, parce que c'est pas le fait de faire toujours tourner le même 11 qui est important maintenant dans le football moderne, c'est d'avoir un groupe de 20 joueurs, de les faire de les amener en fait physiquement au mois d'avril, mai, les matchs où c'est les matchs qui comptent le plus, et de les sentir concernés. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui va aller gagner le titre. C'est, même pour la Coupe de France, on disait que Lyon pouvait être européen s'il gagnait la Coupe de France, mais je pense qu'il va falloir vraiment arracher cette Coupe de France à Paris, parce qu'ils peuvent faire, là, je pense, cette année, un vrai beau, au moins doublé, et peut-être même un beau parcours en Coupe d'Europe, et ça peut être intéressant. Et ça fera fermer...
On a déjà un trophée, monsieur, que l'on a attrapé à Toulouse début janvier. Hein. Ne jamais oublier le trophée des champions.
Je voudrais saluer et citer au JCRM, notre spectateur adoré, qui dit qu'en gros, hier sur l'équipe, c'était horrible. Je peux confirmer que hier, j'ai dû écouter le soir RMC et c'était comme l'équipe. Hein. Je te rassure aussi au JCRM. J'ai saigné des oreilles. Je vous laisse. J'ai fini mon tunnel.
Alors, si je puis me permettre d'ajouter, en tout cas sur Kylian, moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez lui, c'est qu'il y avait tout en fait ce soir-là. Il y avait tout. Il y avait à la fois le collectif. On a pu voir qu'il a été fair-play. Notamment vers la fin, il aurait pu tenter de marquer le triplé, pourtant il a fait la passe à Vitinha. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'en fait, moi ce que je trouvais, ce qui manquait chez Kylian aussi, c'est cette petite part de fougue et de fulgurance qui parfois nous sauvait. Et ce soir aussi, elle a été là, notamment sur le premier but.
Tu peux difficilement mieux la mettre. Hein.
Je suis d'accord.
Ah non, c'est vrai que sur le premier but, c'est les classes, c'est des gestes de classe auxquels il nous habitue, et le deuxième, c'est sa spéciale. Rémiro, pardon, le gardien basque qui sort. Il sait qu'il ne sait pas où il va tirer, donc il est à peu près à la moitié au centre un peu de son but. Il est encore sur ses appuis. Kylian ferme au premier poteau et il n'a pas le temps de mettre le pied. Mais il peut, dans cette position, il peut se la prendre dans le petit filet opposé. Enfin bref, c'est la spéciale. Et là, on ne peut que se lever et applaudir.
Ah oui.
Donc dans ce cas-là, voilà, c'est finalement, si Kylian nous fait ce style de match jusqu'à la fin de saison, il était en train de s'attirer l'animosité d'une bonne grosse partie des supporters parisiens. En tout cas, je parle bien des supporters du club et pas les supporters du joueur. D'ailleurs, j'avais entendu la différence. On est supporter d'un club et on est fan d'un joueur. Moi, je fais la différence entre les deux. Voilà, là, il s'attirera les louanges des supporters. Alors, peut-être qu'on en a quelques-uns qui continueront à râler sur le fait qu'il part libre. Voilà, c'est aussi bien de lui que de la faute du club. Mais en tout cas, lui, il aura fait le travail, sachant qu'au prochain tour, on va forcément prendre le Real Madrid. Il y a un storytelling à écrire. De toute façon, c'est...
Ah, moi, comme en finale, moi.
J'achète. Si tu vois la finale Paris-Real, j'achète, hein, perso. Mais en tout cas, non, le prochain tour, moi, si on voulait déjà se projeter en preview, moi, je prends le vainqueur de Dortmund-PSV Eindhoven. Hein, je prends les gros.
Je prends Naples ou le Barça éventuellement aussi, c'est pas mal. Même si Naples, ça reste un peu plus relevé aussi.
Ouais, mais le Barça, t'as quand même des individualités, même si c'est pas
Non. Moi, je pense que le Barça, c'est un bon tirage ou à la rigueur, oui, ou PSV ou Naples, oui, ou Dortmund, oui, ça reste aussi un bon tirage.
Non, moi, bon tirage, c'est ces deux-là. Les autres, après, t'as les tirages accessibles. Et après, tu as les tirages, tu te mets une balle dans la tête, c'est-à-dire City.
City.
Voilà,
c'est... City, ouais.
Bon, et on a vu, le Bayern, tu peux être envié au premier
clairement.
Au match aller chez toi et au retour, même un. Voilà, t'as quand même des excellents joueurs et tu peux te prendre un 2-3-0 dans la
course. C'est clair.
T'as rien vu. Donc, on l'a vu à la Lazio hier. Après la Lazio, il ne faut quand même pas oublier qu'au match aller, le Bayern fait 17 tirs, il ne cadre aucun tir. Donc c'est clair. Ça n'aide pas pour marquer des buts.
C'est clair.
Sinon, pour les d'autres joueurs, à noter quand même, on peut parler aussi des joueurs avant de parler de Luis Enrique. Bon, allez, quoique, comme ça nous permet de faire de la tactique. On va parler de Luis Enrique.
Il en a parlé, Carlos. Par exemple, sur sa gestion de l'effectif à Luis Enrique, c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé, franchement, ce qu'on pouvait nous reprocher avec Christophe Galtier ou avec Tourelle, Pochettino, c'est qu'on n'avait pas de banc, en fait. On n'avait pas réellement des entrants qui pouvaient faire la différence. Or, ou à la rigueur, pas forcément faire la différence toujours. On n'a pas un banc non plus à la Manchester City. Mais, au moins, le banc présent du côté parisien ne nous fait pas avoir des boulettes monumentales, en fait, ne nous fait pas complètement sortir d'un match. Ça tient la route. C'est ça qui nous manquait un petit peu la saison dernière, ou même depuis un certain temps. Moi, j'ai trouvé, je pense que là on a un effectif qui est taillé pour jouer la Ligue des Champions correctement. Bon, il y a certains joueurs qui restent en dessous, malheureusement, qu'on aimerait bien plus voir dans les grands matchs, Colomoini, Ramos. Voilà, ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais dans l'effectif et dans sa gestion, Enrique, ça reste une masterclass, moi, je trouve, par rapport aux anciens entraîneurs.
Ah bah, clairement, hein, quand on regarde... Après, la saison passée, tu as aussi peu de bancs parce que tu as trois joueurs qui te vampirisent ta masse salariale. Si en plus tu ajoutes sur les trois, t'as quand même deux joueurs qui partent, t'économises grosso merdo 70 millions d'euros. Et Verratti, il était entre à 14, je crois. Donc déjà, à trois joueurs, 85 millions d'euros. Eh ben, tu peux les répartir sur un banc. Alors après, bien sûr, tu as l'achat. C'est des joueurs où ça c'est autre chose, mais vu que le fair play financier s'attache beaucoup plus à la masse salariale qu'au transfert. Sachant qu'en plus que Paris va toucher les sous de CVC à la fin de l'année, où on a à peu près 140 millions qui vont entrer dans les caisses, ça fait partie des sous qui sont là pour pouvoir justement payer les nombreux transferts qu'il y a eu cet été. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu en parlais justement avec les nouveaux joueurs, c'est que il me semble que au coup d'envoi, on a 6 joueurs qui sont arrivés sur les mercatos d'été et d'hiver.
Ouais, c'est ça.
On a quand même un Paris Saint-Germain qui est l'équipe la plus jeune de l'histoire alignée en Ligue des Champions, avec un tout petit peu moins de 24 ans d'âge moyen.
Exactement, ouais.
Donc, le joueur le plus vieux sur le terrain, c'était Lucas Hernandez à 28 ans.
Bah, ça montre que l'effectif rentre dans une nouvelle ère, quoi. C'est ça qui est bon. Là, je viens de voir, la prolongation de Zaïre Emery a l'air d'être en bonne voie.
Ah bah, c'est quasiment signé. Ils attendaient officiellement, ils ne pouvaient pas signer avant ses 18 ans.
Ouais, ouais.
Donc là, il va les avoir. Je crois qu'il a 18 ans le 8. Donc,
ouais, c'est ça, ouais.
Ça devrait arriver là. Parce qu'actuellement, si vous allez sur des sites où tu peux trouver les salaires, Zaïre Emery est à 4300 euros par mois. Alors, autant te dire qu'il va prendre une belle augmentation. Hein, je pense qu'il va, faire un fois 100, hein, grosso merdo. Je pense que tu peux facilement penser qu'il va, prendre ses. Bon, je dis fois 100, peut-être pas, mais il va prendre au moins ses 150, 200 000 euros. Sachant que le mec, maintenant, en plus, est international français. Même le plus mauvais des agents, il est capable de te le faire.
Et puis, sachant qu'il vient de valoriser. Kylian va partir, donc ça va dégraisser un peu de mammouth au niveau de Paris.
C'est clair.
Il pourra filer un salaire un peu plus important.
Ah bah, sachant que Kylian qui s'en va l'année prochaine, tu peux te payer. Sachant qu'il y a plein de gens qui disent qu'il coûte à peu près à Paris 100 millions d'euros par an. Mmh. Mais je crois que déjà rien qu'en salaire sans les primes, tu es à 70. Donc tu te rends compte que 70, tu es à 3 joueurs et demi. À des joueurs qui sont payés comme des stars internationales. Il faut se rendre compte. Un Kevin De Bruyne, c'est 17 millions l'année.
C'est tout.
je crois que Haaland, il doit être à peu près à 20. Peut-être un petit peu en dessous. Tu vas dans le vestiaire du Real, pareil, hein, les plus gros salaires, c'est pas monstrueux non plus.
Non.
Donc,
Bellingham, il n'a pas un salaire mirobolant non plus. Quoi.
Non, ouais, c'est... Il y a l'abri sur quelques générations, mais oui, c'est pas.
Mais en Espagne, ils ont vachement réduit quand même la voilure au niveau des salaires.
Depuis le Covid. C'est ça, c'est que. Ils sont déjà passés ce que reprochait Tebas, c'est que la Liga a devancé finalement les demandes de l'UEFA au niveau du fair play financier. Aujourd'hui, on doit être normalement ta masse salariale peut pas être au-dessus de 90%. L'année prochaine, c'est à 80 et l'année d'après, c'est 70.
Wow.
Et en fait, ils se sont déjà mis sur cette norme.
Le Barça est dans une mer de noir parce qu'eux, ils n'arrivent toujours pas à faire diminuer la masse salariale et c'est une vraie catastrophe. En plus, ils n'ont plus leur stade. Pour le moment, il est en pleine rénovation. Donc, non, mais c'est vrai que là, pour reparler un peu des transferts de Paris, je trouve qu'ils ont quand même été intelligents. Ils ont trouvé un peu, effectivement, ils ont densifié un peu leur effectif et densifié leurs remplaçants. C'est vraiment, alors après c'est pas forcément, enfin bon, quand tu vas chercher Skriniar, est-ce que tu vas pas chercher quelqu'un en vert ou pas, c'est toujours un peu difficile, c'est en même temps t'es toujours un peu entre de faire la bonne affaire parce que c'est quelqu'un qui arrive gratuit, mais en même temps avec le passé qu'il avait, le physique qu'il avait, est-ce que d'investir sur lui, tu vois, c'était
tu t'étais déjà mis un peu d'accord avec lui avant qu'il soit blessé.
Oui, c'est ça. Oui.
Tu es d'accord avec lui en janvier, il n'est pas encore blessé. D'ailleurs, à ceux qui disent aussi la gestion de Paris, que c'est impensable, qu'il n'y a aucun autre grand club qui mettrait un de ses joueurs phares sur le banc parce qu'il s'en va libre, je vous conseille de regarder l'Inter avec la gestion de Skriniar.
Hein,
il n'était pas encore blessé. L'Inter, pas content qu'il vienne à Paris gratos, ils l'ont mis sur le banc, hein, alors que Skriniar avait été élu meilleur défenseur de Serie A la saison d'avant. Donc, on va dire que les grands clubs, à la limite, ils font ce qu'ils veulent avec leurs joueurs, s'ils sont pas contents. Il n'était pas payé le même montant que les Kylian, on est d'accord. Donc, c'est la gestion. Donc, justement, ce qui nous permet d'arriver sur Luis Enrique, il nous a... Alors, pour mon plus grand plaisir, parce que quand on aime la tactique, etc., il a vraiment fait quelque chose en fonction de l'adversaire pour être en supériorité numérique au milieu de terrain. Et ça, c'est vu. Quasiment tout le temps, Paris était en supériorité numérique. Les joueurs de la Real étaient totalement perdus. Les Mereno, Zubimendi, Mendes, ils ont bien craché leurs poumons jusqu'à ce que Paris finalement lève le pied à partir de la 60e. Et là, ça c'est revenu un petit peu plus à la normale. Bon, en tout cas, le coup tactique de finalement jouer sans pointe. Parce que Barcola occupait l'aile droite, Mbappé l'aile gauche. Dembélé est redescendu au milieu de terrain en tant que relayeur droit. Vitinha, a priori, a trouvé sa place en tant que sentinelle devant la défense. Il fait encore un match excellent.
Oui.
Warren, qui est remis plutôt dans l'axe du terrain. Donc on avait une sorte de 4-4-2 losange, mais finalement avec les deux de devant écartés. Et Ruiz, qui a fait finalement un pas trop mauvais match dans le référentiel Fabien Ruiz, hein, parce qu'on peut toujours attendre un petit peu mieux de lui. Peut-être c'est son aspect un peu nonchalant qui renvoie aussi peut-être une mauvaise image, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que cette disposition, la technique de Dembélé, alors, et aussi les à côté, hein, parce que la petite passe qui manque de calcium pour Nuno Mendes qui amène son carton jaune. Voilà, c'est un petit peu les desiderata aussi les inconvénients de Dembélé dans ce genre de poste. Mais en tout cas, il a fait énormément de bien. Et que dire du match de Beraldo?
Il y a
ceux qui voulaient déjà le renvoyer au Brésil au bout de deux matchs en tant qu'arrière-gauche où on a vu que c'était pas vraiment forcément son poste parce qu'il a pas forcément de vitesse.
Non, mais alors, Arnaud, il faut dire la phrase. Parce qu'il n'a pas joué à son vrai poste ou son poste préférentiel.
C'est ça.
Il avait été
vendu sur le fait qu'il pouvait jouer, qu'il pouvait quand même dépanner sur le côté gauche. On a vu au match aller qu'il fallait pas.
En soi, c'est comme avec Hernandez, quoi. Hernandez, il peut jouer à droite, à gauche, et il peut jouer au centre.
À droite, c'est compliqué quand même, mais en tout cas, oui.
Mais il peut dépanner, quoi.
Il peut jouer axial. C'est tendu quand même. C'est plutôt Mukiele, lui, qui peut jouer. Hakimi peut jouer à gauche.
Mukiele, tu le fous neuf, il est capable de jouer neuf. Hein.
ça serait pas forcément une mauvaise idée, parce que c'est vrai qu'il est plein de fougue, ce jeune. Mais c'est vrai que quand il est rentré, c'était un peu moins serein en défense centrale quand même. En tout cas, Beraldo, là, on a vu que ce gamin, il a des pieds en or, en fait. D'ailleurs, les sorties de balles, les passes claquées vers l'avant, 22 passes vers l'avant réussies sur 23, le deuxième but, typiquement, ça a bien tourné, la balle revient vers lui, la passe Ligue des Champions vers Fabien Ruiz, qui contrôle le ballon dos au but, qui remet sur Kang In-li, Eli Kang In, je sais jamais dans quel sens on dit, et qui envoie Mbappé sur orbite et qui nous termine par sa spéciale. Et ça, on l'avait dit tout à l'heure, c'est à la fin d'une séquence de 16 passes. C'est magnifique. C'est finalement le degré d'efficacité technique et le niveau technique qu'on veut voir à Paris. Et c'est typiquement sur ce genre de choses. Là, on a vu avec Lucas Hernandez et Beraldo des défenseurs qui avançaient avec le ballon, qui transmettaient au milieu de terrain, qui cassaient des lignes. Là, sur plusieurs passes vers l'avant, il y avait 5 ou 6 joueurs de la Real Sociedad éliminés par une passe. Et ça, quand tu es sous pressing, c'est le Graal. Alors en plus, sur son côté gauche, il avait Dembélé qui était là pour récupérer les ballons, parce que lui, c'est contrôler un ballon. Après, des fois, il s'en mêle un peu les crayons quand il fait la conduite de balle. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il savait réceptionner. Nuno Mendes, il a aussi récupéré. Et en plus, quand t'es coté comme ça, t'as cassé une ligne, tu te retournes, et bah t'envoies l'extraterrestre Mbappé en profondeur, et t'as typiquement une occasion de but. Donc, c'est finalement le football dans sa plus pure essence, finalement.
Mmh, exact.
Où c'est la simplicité, c'est une belle relance, des points d'appui, une passe en transition, et tu lances en profondeur, et ça fait but.
Ce qui est assez marrant, c'est que moi, ça, quand on reprend un peu, il y a des fois les mots de certains pseudo-journalistes, on va dire pseudo, hein, parce qu'ils m'ont tellement cassé les noms hier qu'on va oser sortir les mots. C'est que je trouve qu'en plus, Mbappé, il y a des fois, alors peut-être dans le premier, mais je trouve aussi sur le deuxième, ça me fait penser un peu à des buts d'handballeur, c'est-à-dire c'est vraiment ce côté, je vais à gauche pour repiquer au centre, essayer de m'ouvrir un maximum le deuxième, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il arrive à s'ouvrir l'angle de telle façon que le gardien ne sait pas s'il va tirer sur l'extérieur, s'il va vouloir l'enrouler sur l'extérieur ou la mettre premier. En fait, il ne se passe pas forcément très bien, malheureusement pour lui, et forcément, il la claque au premier, et ça passe dans un trou de souris, et c'est vraiment, quand vous regardez un peu du hand, sur les tiers déliés du hand, c'est vraiment cette tactique-là, c'est-à-dire se dire, j'essaie de m'ouvrir de choix pour essayer de mettre le ball dans une instabilité, une sorte d'hésitation pour savoir là où je vais tirer. Et c'est ce qu'il arrive à faire, et c'est ce qui est toujours impressionnant de la part de Kylian Mbappé, quoi. Et comme tu dis, quand tu vois ça, c'est tellement facile, tellement facile. Mais c'est vraiment, on va dire, on se rend pas compte de la puissance qu'il faut pour démarrer, pour mettre, parce qu'il va quand même vite, hein, le petit porcinet, on dirait pas comme ça, mais il a été chronométré apparemment, entre guillemets, pour le 100 mètres à 10 secondes, quoi, un peu aux environs de 10 secondes, donc il est sur les traces du Sunbolt, hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai, il faut le dire, il y a des stats qui sont passés.
Ça me paraît très bas, 10 secondes quand même, parce que 10 secondes, actuellement, on l'envoie au JO, hein, pour l'équipe de France. Hein.
C'est clair.
Mais je l'ai vu sortir. Alors,
je ne suis même pas sûr que tu aies un sprinter actuel français qui fasse 10 secondes. Hein.
Alors, pas forcément sur 100 mètres, hein. C'est-à-dire que sa pointe d'accélération, Arnaud, hein, quand il fait le deuxième but. Hein. Après, au 100 mètres, il faut tenir les 100 mètres.
Mais après, tu peux courir. Il y a pas mal de joueurs qui courent vite à vide. Lui, il court vite avec le ballon dans les pieds.
C'est ça.
En conduite de balle.
C'est ça
qui est monstrueux, quoi.
C'est le deuxième but qui marque contre la Real Sociedad où tu as l'impression. Non, je confonds. C'est quel match? Non, c'est Barcola. Excusez-moi, je confonds. C'est pareil, lui. Lui,
oui,
qui, on dirait
sur
pas
le,
comme
sur
ça,
le, c'est, un, aller, oui.
C'est un faux lent, lui, c'est pareil. Mais sur le deuxième but de la Real Sociedad, c'est extrêmement impressionnant ce qu'il arrive à faire. Et impressionnant de côté de pureté du geste, quoi, de simplicité.
Alors, c'est vrai que ce match, finalement, la prestation est un petit peu ternie sur les 30 dernières minutes où la Real a tout de suite beaucoup plus d'occasions. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau des big chains, ils en ont quand même 4, il y en a 3 ratés. Alors après, est-ce que c'est raté parce qu'il y a Donnarumma ou la défense qui compte. Déjà, il y aurait pu y avoir une tête sur un coup de pied arrêté, mais je ne sais plus qui fait la tête, mais qui est signalé hors jeu de vraiment pas grand-chose. Hein. T'avais un petit pied qui traînait et finalement il y a une épaule qui dépasse et le but est refusé. Donc il y a quand même des belles occasions, mais à l'arrivée, ce qui a fait aussi le sel de la prestation parisienne, c'est qu'on a retrouvé aussi des cadres. Enfin, quand on a vu les derniers matchs du PSG, c'était affreux, c'est-à-dire que les mecs, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'était des frappes forcées, et à chaque fois, ils tuaient deux ou trois pigeons, quoi.
Ouais.
Là, tu as 10 tirs, tu en as 7 cadrés.
Oui, ouais, c'est ça.
Quand tu cadres 70% de tes frappes, bah, c'est déjà quand même un petit peu plus facile de marquer des buts, quoi.
Oui, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça qui était affolant sur les derniers matchs du PSG. Alors, il faut que je regarde les résultats, mais il y a un match, ça m'avait complètement consterné. C'est de voir le nombre de tirs. Je crois que c'est le match contre.
Celui contre Monaco. Hein,
oui, contre Monaco et puis contre Rennes. Rennes. Mais c'était affolant. 15 tirs pour le PSG, 3 cadrés. 3 tirs pour Rennes, 1 cadré. Le résultat, 1 partout. C'était consternant à ce moment-là. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, on a retrouvé des cadres et puis on a retrouvé une équipe quoi. En fait, là au moins, le jeu est construit. Il y a des vraies intentions, comme vous l'avez dit juste avant, avec ces actions telles des handballeurs, comme dirait Carlos. Mais oui, franchement, c'est plutôt bon de voir ça que le PSG a retrouvé un cadre de jeu entre guillemets classique.
Je remets mon micro. Ah, je l'avais coupé parce que j'étais en train de tousser tel un tuberculeux. OGCRM qui fait une belle remarque sur Hakimi qui est suspendu parce qu'il a pris son deuxième jaune, donc qui est suspendu pour le match aller pour l'écart. Gros coup dur ou est-ce qu'on va réussir à moduler ça via nos joueurs qui sont assez polyvalents avec un solaire, avec un.
C'est fini. Lâche-moi tout ça, c'est fini. Je te dis mon prêt.
Mais ça va pas.
Un petit souci coupure son.
Oui.
Mais je trouve que après la. Effectivement, le fait que Hakimi soit suspendu, ça peut être un problème pour Paris. Mais je trouve que Mukiele, alors après, c'est-à-dire que c'est dans 4 semaines, Arnaud, toi qui.
Il me semble que ça doit être. Attends, je vais te.
Il me semble que c'est au mois d'avril.
C'est sur le début. Ah bah attends, hop. Le tirage au sort, c'est le 15. Ça serait les matchs, ça serait le 2 et 3.
Ouais, donc en gros, on va dire que c'est à peu près dans 4 semaines. Je trouve que ce qui serait peut-être intéressant pour Paris, c'est de mettre quelqu'un comme Mukiele à droite et de Nuno Mendes, s'il arrive à retrouver un peu plus de forme. Peut-être d'avoir le pendant d'Hakimi à gauche, c'est-à-dire Nuno Mendes, de faire un peu plus attaquer comme il est capable de faire, et quelque de déplacer le côté fort de Paris, qui est plutôt le côté droit entre Hakimi et Dembélé, et peut-être de faire une connexion Nuno Mendes Kylian Mbappé, qui pourrait être intéressante pour le match. Alors après, ça dépend qui tu vas affronter aussi. Hein. Ça va dépendre
du cas. C'est ça, là, avec justement l'animation qu'on a vue avec un Dembélé qui redescend au milieu de terrain, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu peux voir de manière pérenne? Est-ce que c'est des choses qu'on va revoir ou est-ce que contre Reims dimanche à 13h, est-ce qu'on va revoir Dembélé en ailier droit avec un attaquant de pointe, avec Kylian à gauche Parce que finalement, c'est un petit peu ça aussi. Est-ce que cette animation sans numéro 9, alors ça sent quand même pas forcément trop bon. Ça sent pas bon Ramos, par exemple, vu que si Paris ne joue plus sans 9, mais avec deux ailiers excentrés.
Mais je trouve qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que. Comment dirais-je? Luis Enrique a trouvé son 11 de démarrage et en fait, il a trouvé sa tactique aussi et qu'il est capable un peu de l'adapter en fonction de l'adversaire. Il sait qu'il a à peu près un 11, tu vois, des joueurs comme Dembélé sont quand même suffisables. Enfin, on s'aperçoit que Dembélé, moi, il me surprend un peu plus chaque jour. Je trouve qu'il a quand même, son QI football a énormément évolué. Je trouve que tactiquement, il est beaucoup plus intéressant que ce qu'il était à Barcelone. Je trouve qu'il a mûri au niveau de son jeu.
Mais il est responsabilisé.
C'est ça.
Parce que c'est quand même lui qui fait. C'est par lui que venait l'animation offensive finalement.
Oui.
Et c'est ce qu'on reprochait aussi à Kylian, c'est que d'être finalement sur son côté, d'être finalement la terminaison de toutes les actions. Et derrière, bah, c'était finalement à Dembélé d'essayer de déséquilibrer le bloc. Et c'était aussi ça aussi. On parlait de collectif au niveau de Paris, c'est que là, Kylian était un joueur parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on a vu aussi pendant le match sur la première mi-temps où t'as Warren qui part, qui fait une percée. Il y a peut-être quelques temps, il l'aurait forcément donné à Kylian sur le côté. Là, il a quand même essayé de frapper, même si ça manquait un peu de calcium et que ça finit tranquillement dans les bras du gardien. Mais voilà, tu sens quand même qu'aujourd'hui, peut-être que le fait que Luis Enrique ait sorti Kylian, ne l'ait pas fait débuter, l'ait sorti à la mi-temps. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu sur le fait que Luis Enrique manquait de respect à Barcola sur le fait de l'avoir sorti à la mi-temps?
Ben, j'en ai entendu un peu parler quand même. Ils en ont un peu parlé.
Ah ouais, quand même.
Moi, quand même un petit peu. Mais après, bon, c'était justifié, même injustifié. Enfin bon. Et ils sont plus assez près au niveau de on va dire de la comment est-ce que je vais dire ça simplement et de façon totalement polie. En fait, pour pas se contredire, ils sont capables de sortir des énormes saucisses. Mais alors ce qu'il dit au JCRM est intéressant parce qu'il dit il enchaîne les matchs et c'est surtout ce qui fait la différence par rapport au Barça où il était pourtant blessé. Je suis un peu d'accord, mais je trouve que Dembélé n'est plus forcément le même joueur. On sait qu'au niveau de sa vie familiale, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Oui,
c'est marrant. Je trouve que, ouais, il a. Et puis même, il y avait certaines. Alors, ça paraît bête, en fait. Et puis on se dit, oui, mais ça n'a rien à voir avec les huitièmes de finale. Mais j'ai vu des vidéos qui tournaient de lui avec les petits jeunes du centre de formation, où il s'impliquait aussi dans certains entraînements, où il leur faisait gagner des trucs. Ça paraît bête, en fait, comme ça. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui semblait bien au niveau du club. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'implique plus peut-être au niveau de l'entraînement et de sa préparation physique. Et que, en plus, là, il a peut-être trouvé un entraîneur qui sait lui parler, qui sait définir certains axes de jeu que lui comprend et que lui intègre. Et un entraîneur, c'est pas fait que pour faire un titulaire ou un 11 titulaire et envoyer des gonds sur un terrain. C'est aussi tout un travail de préparation mentale et physique. Et de pouvoir amener les joueurs à se libérer, comme tu le dis très justement, le fait de pouvoir mettre Kylian sur le banc des remplaçants, ça lui a peut-être fait du bien. Et puis en même temps, Luis Enrique a montré à tout le groupe que si tu n'es pas impliqué au niveau des entraînements, au niveau de ce qui est demandé, peut-être au niveau des choix tactiques sur le terrain, sur pendant le match, et ben tu sors. Là, ils en ont un peu parlé pour Barcola et je trouvais effectivement, je pense que Barcola c'est pas son système préférentiel. Excusez-moi, je me suis répété. Oui, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est amené à jouer sur l'axe gauche, sur l'aile gauche, peut-être que plus tard. Et encore, je me dis un numéro 9 dans lui, ça serait vraiment un rôle un peu à la Kylian Mbappé, deuxième attaquant, de quelqu'un qui puisse tourner.
Ça manque un peu de puissance quand même.
Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, c'est quelqu'un de plutôt grand. Et pour l'instant, d'un point de vue.
Jeu aérien, c'est dur.
Et puis, je trouve qu'il commence à arriver à faire des choses intéressantes au niveau de. En plus, il a des grandes guiboles et tout, il faut quand même pouvoir les coordonner.
Mais c'est pareil. On disait que l'équipe était jeune, c'est vrai. Bon, après, t'as forcément Warren qui descend un petit peu l'âge moyen. Mais voilà, Barcola, c'est combien? C'est 21 ans aussi.
Oui, et puis il y a 6 mois, il n'était même pas titulaire à Lyon. C'est vrai. Il faut aussi te rappeler, c'est-à-dire que tu as des parcours. Quand tu regardes, par exemple, Carlos Soler qui rentre et qui fait excellemment bien son travail, Il avait été pris sur les dernières heures du mercato l'année dernière. On se demandait ce qu'il faisait. On en parlait souvent avec Christophe. Quand tu vois la transformation de ce joueur, c'est énorme. Enfin,
C'est vrai qu'il a sur la gestion de Luis Enrique, il implique tous les joueurs parce que Carlos Soler, alors je ne sais plus s'il fait tout le match, mais en tout cas, il dispute quasiment les 90 minutes du match contre Monaco. Donc c'est tu lui fais pas jouer en plus les matchs contre Lorient ou Metz. C'est que là c'est Monaco, il implique tous les joueurs.
Ou Garnier, je vais t'envoyer une saucisse hein, parce que tu nous en avais parlé pendant le mercato hivernal. Mukiele, qui était censé partir pour le Bayern, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'hyper important. C'est pas un titulaire de ta défense au départ, mais c'est quelqu'un d'hyper important qui est capable de jouer tous les postes de derrière, de faire reposer, de rentrer à 30 minutes de la fin et de pouvoir assurer un peu, tu vois, certaines choses. Alors effectivement, OJCRM nous dit pour Hakimi. Mais Mukiele, moi j'ai confiance. C'est quelqu'un qui va avoir d'autres capacités, d'autres principes de jeu que Hakimi. Ça, c'est pas Hakimi, mais c'est pas grave. Il sera là aussi pour assurer le truc. Et tu sais que c'est quelqu'un qui va se mettre le foie par terre pour pouvoir faire un très bon match.
Tu vois, typiquement, je serais pas étonné que ça soit plutôt Marquinhos qui remplace Hakimi. Il y avait déjà eu des
effets. Ça dépend ou un Warren aussi, parce qu'il est capable de plus se projeter un peu plus haut.
Bah après, Warren, il est quand même super important au milieu de terrain, parce que c'est quand même l'un des rares milieux de terrain qui se projette, comme pouvait le faire Matuidi.
Oui, mais tu peux avoir, par exemple. Mais ça va dépendre de l'équipe. Quoi. Limite, tu peux mettre un Warren, si tu as une équipe, admettons... qu'est-ce qui peut encore passer? On s'était dit, bon, Eindhoven, et pour les points UEFA, il ne faut pas qu'ils passent, eux. Mais qui avait d'autres?
T'as le PSV, t'as Dortmund, t'as Naples.
Et par exemple,
Arsenal, Porto.
Et par exemple, si Porto se qualifie, Porto, normalement, Paris devrait. On va voir pour Arsenal-Porto, mais admettons. Allez, exception, enfin, surprise, Porto se qualifie. Moi, ça me semblerait pas déconnant de pouvoir mettre, par exemple, un Warren à droite et un Soler au milieu, parce que Soler aura, je pense, la capacité quand Porto va chaler de pouvoir assurer ce rôle-là, tu vois, de porter le ballon. Ça peut, mais c'est ça qui est bien et je trouve qui est intéressant au niveau de Paris, c'est que tu peux avoir un à deux postes pour chaque joueur.
C'est ce que réclamait justement Luis Enrique, c'est avoir pas mal de joueurs polyvalents.
Bah, Lee Kang-gi, tu t'aperçois qu'il peut jouer aussi bien milieu relayeur qu'ailier droit.
Et, c'est le cas de D'Ascenso, c'est le cas de Dembélé.
C'est pareil, c'est-à-dire que je pense que la deuxième partie de championnat peut vraiment être surprenante de sa part. On oublie trop souvent, certains l'ont critiqué, qu'il a quand même dû jouer les jeux asiatiques.
Ouais.
Et qu'en plus, il déterminait son service militaire, à savoir s'il n'allait pas devoir mettre sa carrière sportive pendant 2 ans pour faire son service militaire. Ce qui est une obligation en Corée du Sud, et on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd psychologiquement. Il a réussi à s'éviter ça en remportant la médaille d'or, et en plus, ensuite, il a enchaîné avec la Coupe d'Asie des Nations, où il y a aussi une énorme pression, et la Corée du Sud n'a pas réussi à passer, non. Et en plus, il y a eu des affaires un peu entre lui avec, et le joueur de Tottenham.
Donc, ça s'est rabiboché, apparemment.
Ça s'est rabiboché. Mais je pense que peut-être la deuxième partie de saison, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir le récupérer. Tu sens qu'il est quand même extrêmement intéressant sur des postes, hein, tu vois, d'attaquant droit. C'est pas un poste qui est fait pour lui, mais j'ai trouvé plutôt pas mal encore hier, parce qu'en plus, il apporte de l'impact, et il apporte une certaine pression qui n'arrivait pas à amener Barcola.
C'est vrai qu'il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que Bradley. Bradley qui va prendre plutôt la profondeur, qui est quand même un joueur assez technique aussi. Mais Li Kangying, au niveau de la conservation du ballon, ce genre de choses, c'est le niveau au-dessus de Bradley. Enfin, c'est sans faire injure à Barcola. Il est quand même beaucoup plus fort en dribble, conservation du ballon. Le ballon qu'il met à Mbappé sur le deuxième but, je suis pas convaincu que Bradley est capable de lui mettre de la même façon, quoi. Donc,
mais donc, tu sens que ouais. Puis c'est quelqu'un qui vient du milieu de terrain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas forcément reculer devant l'impact physique. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc,
tout à fait. Donc vraiment un bon coaching. Là, c'est tu vois dans l'équipe Luis Enrique à 7. C'est vraiment, à mon avis, les mecs, ils se sont dit, bon, les gars, on l'aime pas, mais on peut quand même pas lui mettre moins. Donc, on est obligé de lui mettre 7. Mais pour moi, il fait une masterclass tactique. Il doit prendre tout neuf.
Je trouve qu'en fait, j'aurais plutôt mis 8. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je trouve qu'il est à voir ce qu'il va réussir à faire jusqu'à la fin de saison. C'est surtout ça, en fait, le truc. Mais je trouve que comparé aux entraîneurs qu'on a eu avant, c'est ce que je me tue à dire, tu vois, par exemple, pour certains clubs comme l'OM, ou qui n'ont pas, en fait, de vision extrêmement longue, on sait que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui va projeter son football et qui va le penser. Et même sa gestion d'effectif, il la pense quand même assez longtemps à l'avance. Ça paraît con à dire, mais voilà, tu vois, Donnarumma, ça a été un peu difficile au début, et tu t'aperçois qu'en fait Donnarumma est en train de faire un travail qui est en train de porter ses fruits, tu vois, et que ça devient de plus en plus intéressant, c'est-à-dire que c'est la progression. Quand j'entends encore un pseudo-journaliste sportif français dire que l'équipe de Paris s'est pas améliorée depuis le début de saison, en fait j'ai envie de lui dire, mais de quelle équipe de Paris tu me parles? Et comment alors effectivement, moi au début de saison, on en avait parlé, hein, tu te souviens de Newcastle, de ses choix tactiques qui étaient quand même pour moi discutables, parce qu'en fait, il déséquilibrait toute son équipe à vouloir faire une sorte de 4-2-4. Et là, je trouve qu'en fait, il a été intéressant parce qu'il est comme Guardiola, c'est-à-dire qu'il a compris dans les événements importants, il faut quand même avoir une base. Une tactique simple, mais en même temps équilibrée. Tu peux avoir des joueurs à haut potentiel offensif, mais il faut quand même avoir un certain équilibre au niveau de ton équipe, parce que de toute façon, les équipes en face sont tellement physiques que si tu fais une sorte de bascule de ton équipe sur le côté offensif, ça va se reporter contre toi, en fait. Et il faut mieux avoir un peu plus le ballon, tu vois, un peu plus. Puis quand tu as des joueurs comme Mbappé, il faut en profiter. Sur la transition, c'est. Je sais pas ce que tu en penses après, mais.
Après, il est. Tu sens quand même que sur le match de Ligue des Champions, il le prépare en fonction de l'adversaire. Ils vont beaucoup travailler là-dessus. En Ligue 1, l'approche est différente. Là, c'est tu imposes ton jeu. Parce que 75% des équipes de Ligue 1 viennent et c'est finalement un petit peu plus le cas cette saison. La saison passée, tu avais des équipes qui venaient au parc pour gagner, surtout en fin de saison. Hein. On a quand même vu des Clermont, des Lorient faire des résultats au Parc des Princes en fin de saison. Là, tu sens quand même que les équipes, même Rennes qui montrait des choses contre le Milan, qui était sur une série de résultats largement positifs en faisant des matchs aboutis, elle est venue au parc en faisant tourner une partie de l'effectif, parce que ce qui était important, c'était la Coupe d'Europe en milieu de semaine, puis la qualification contre le Puy en milieu de semaine suivante. Donc le match de Paris n'était clairement pas le plus important pour le Stade Rennais. Ils sont venus en victime expiatoire. Ils ont presque réussi leur coup, hein, d'ailleurs. Oui. Mais et donc là, finalement, en Ligue 1, bah, il est obligé d'essayer de prendre le jeu à son compte, de faire tourner, de jouer du U, etc. Là, le U a été totalement abandonné contre la Sociedad. C'est les Le deuxième est construit, mais le premier, ça vient aussi d'une transition. Et c'est vrai que on va enchaîner, parce qu'on avait dit une demi-heure max, mais on est déjà quasiment une heure, donc on va se projeter sur les quarts de finale et peut-être une preview de ce qu'on pourrait voir de Paris. J'ai l'impression que pour Paris, peut-être les meilleurs tirages, on parlait à City, c'était un petit peu chaud patate. Mais tu te dis que cette équipe en transition, avec l'arme de destruction massive Mbappé, s'il est bien luné et au service du collectif, je pense que cette équipe de Paris fait peur à tout le monde.
Je pense que
Pep Guardiola, il tire Paris en quart de finale, parce que là, il y a actuellement 3-1 pour Manchester City. Donc, sauf si Copenhague met 4 buts à l'Etihad Stadium en deuxième mi-temps, on peut dire que City est qualifié. Je pense que Guardiola, c'est pas forcément le tirage. Si tu lui demandes, il veut pas Paris, quoi. D'ailleurs, Guardiola, il est pragmatique, hein. Lui, si tu lui demandes, il veut le vainqueur de PSV Dortmund. Hein. Comme tous les gens à peu près normaux, sauf si t'es un peu maso, quoi. Mais sinon. Donc c'est Paris, soit ces équipes très fortes, soit finalement les équipes qui sont normalement en dessous, comme le PSV et Dortmund. Bah, on l'a vu que sur l'ensemble des deux matchs, à l'arrivée, c'est une victoire de Paris et un match nul devant l'immense mur jaune qui fait trembler l'Europe. Et à chaque fois, moi je trouve que c'est plus un muret qu'un mur. Mais après, c'est un peu autre chose. Mais donc, comme la fameuse ambiance
d'hier. On peut finir un peu là-dessus. Je trouve que tu es un peu dur, mon cher Arnaud. Tu t'aperçois qu'en fait, effectivement, tu peux peut-être espérer une sorte de remontada, mais alors après, le problème, c'est que tu te fais un peu manger le cerveau par les médias espagnols. Mais tu t'aperçois qu'en fin de match, quand même, ils étaient aussi derrière leur équipe. Bon, quand ils marquent le but, c'est plus anecdotique qu'autre chose.
C'est ça. Et qu'en gros, apparemment, l'ambiance était folle quand la Real a réduit le score.
Je pense qu'ils savaient que c'était que de toute façon Paris était au-dessus d'eux, donc il n'y avait pas forcément. Ils ont remercié leur équipe. Tu vois, c'est déjà ils ont fait un beau parcours. Oui. Sortir premier des poules et aller en huitième comme ça, tu vois. Ils n'ont pas forcément été si ridicules que ça. Ils ont quand même, il faut quand même reconnaître que Paris a fait un gros match hier, que la Sociedad aussi n'a pas démérité, même si elle était un cran en dessous, qu'ils ont joué avec leurs armes et que.
Leurs armes du moment.
Oui, mais la Sociedad, c'était pas normalement prévu pour aller en huitième des finales. Non. Et c'est très bien qu'ils soient allés. Ils ont fait honneur à leur maillot. Je trouve, tu vois, ils ont fait honneur à leur stade. Le public était content. C'est une belle fin, tu vois. Ils ont marqué leur petit but. Voilà, Paris assure l'essentiel. Et maintenant, on peut se dire en route pour les quarts de finale.
D'ailleurs, 17e match consécutif de Paris avec un but encaissé à l'extérieur.
ils ont laissé marquer la Sociedad.
Donc, c'est bon. Après, c'est vrai que oui, quand tu regardes au niveau des XG, c'était ce qui était attendu. Mais c'est OGCRM qui nous le disait un petit peu plus tôt dans la soirée, dans le chat. C'est vrai que c'est pas la même Real Sociedad que sur le début de saison, qui a justement performé en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est même si tu vois par exemple le match contre l'Inter. Sur le retour, c'était pas forcément l'équipe type de l'Inter qui était installée où ils avaient fait match nul. Là, typiquement, je pense que ça coûte la première place à l'Inter. Mais en tout cas, voilà, ils sortent de la phase de groupe et ils ont que 2 buts encaissés. Bah, Paris leur en met 4 en 2 matchs.
Oui, mais ce que je vais juste dire pour finir, parce qu'après, sinon.
Mais c'était pas forcément le même niveau. C'était pas du tout le même niveau que sur le début de saison.
Et on s'aperçoit de la dureté de cette compétition parce qu'elle se dure sur 10 mois et que, quelque part, les vérités d'un début de saison ne sont pas forcément celles du mois de février parce qu'il faut continuer à travailler, que le travail au long cours, tu vois, sur toute une saison, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour tous les clubs. Et on s'aperçoit que, tu vois, pour les plus gros clubs, quand tu arrives, comme Luis Enrique, à avoir un effectif, j'ai l'impression un peu de me répéter, mais c'est vrai que d'avoir une telle densité d'effectifs, du coup, tu peux jouer plus longtemps et à plus haute intensité que, par exemple, pour la Real Sociedad, où l'effectif est peut-être plus court au niveau des, entre les titulaires et les remplaçants, l'écart un peu plus important. Et du coup, ben, dès que ça craque un peu au niveau des titulaires, parce que tu les as tellement utilisés et surutilisés, que ben, forcément, quand tu arrives sur des périodes un peu plus charnières comme le mois de février, ben, du coup, ton équipe n'arrive plus à avancer comme avant, quoi. Donc voilà. Mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils peuvent être fiers.
Oui, bah, je pense que les mecs étaient verts de tirer Paris. Dans le métier, on appelle ça, ils ont fait une Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que les mecs, ils finissent premiers de groupe et ils font le pire tirage possible sur le deuxième. Et tu te fais avoir comme ça. Ben, et Paris, nous, ça nous est arrivé aussi. Hein. On finissait premier de groupe, on se prenait le Barça, le Real en huitième. Donc, en tout cas, c'est passé. Pour les supporters de Paris, on est tous heureux de pouvoir voir enfin du football en Ligue des Champions en étant impliqués dans les matchs au mois d'avril. Et sur le tirage au sort, ça peut même te permettre d'aller de voir plus loin, même si, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire, ça ne sera pas forcément évident. Mais en tout cas, l'écueil est passé. Est-ce que tu as une petite chipo, une petite merguez depuis lundi, mon Carlos? Non.
Non. On le réserve pour le lundi. Il faut se dire.
Même pas un petit podcast
J'en ai toujours un conseiller. Il y a par exemple l'excellent podcast Métachoc qui va finir sa série sur la psychogénéalogie. Alors là, bon. C'est pas du football, hein,
mais c'est très bien.
C'est très très bien à l'écouter. Mmh. Et si un petit podcast football à écouter, alors tu vas pas aimer parce que tu es supporter parisien, mais il y a l'excellent podcast le podcast des légendes qui je sais pas si tu connais mon petit Arnaud. C'est deux podcasteurs qui invitent des anciens footballeurs. Alors ils ont invité Bernard Pardot, ils ont invité qui d'autre? Ils ont invité tous les gens de. Ils ont invité toute la génération de 82-78. Ils ont fait un très bon épisode, enfin, ces deux épisodes, avec Olivier Rouillet, qui parle aussi un peu justement de l'homosexualité dans le foot. Ils ont invité donc Jean-Marc Guillou, Yannick Stopira, Gérard Jonvion, donc on sait que voilà, on parle encore aux jeunes dans le podcast.
Oui, c'est ça.
Et ils ont fait un double épisode avec Piggy Louyundouya qui nous parle de son loft à Paris et de la façon dont ils l'ont traité. Quand on dit que le métier de footballeur est quelquefois difficile, allez écouter le double épisode et voilà. C'est extrêmement intéressant. Et il parle aussi d'une période des années 70 où, en fait, quand les footballeurs signaient, en fait, c'était des clauses exclusives de 7 ans dans les clubs. Mmh. Et les mecs ne pouvaient pas se barrer. Ils n'avaient pas leur mot à dire.
Bah, limite, comme en NBA, quoi.
C'est ça. Ouais, mais les contrats n'étaient pas aussi. Aussi élevé et en même temps c'était des salaires nets. Une fois que c'était fixé quoi, ils n'avaient plus le droit d'y retoucher, c'est quand on voit certains présidents pleurer maintenant, on se dit mais vous en avez quand même bien profité avant les salaires.
Donc à l'arrivée tu vois à l'époque Scottie Pippen qui signe, il a tellement peur de la blessure. Et de final, parce qu'à l'époque, en NBA, quand tu étais blessé, tu n'étais pas payé. Il avait tellement peur de la blessure qu'il avait signé un contrat avec les Bulls. Alors, je ne sais plus si c'était 10 ans, mais en fait, il avait signé pour ce qui, à l'époque, ce qui n'était pas mal, mais aujourd'hui, tu rigoles, il avait dû signer pour une trentaine de millions de dollars pour 7-8 ans, un truc comme ça, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est
donc,
sûr qu'un joueur moyen.
Écoutez autre chose, Méta de Choc. Et si vous voulez écouter des anciennes stars du foot, le podcast des légendes. Voilà. Et je crois qu'on va bientôt finir parce que.
Ouais. Et sinon, c'était finalement la petite merguez d'OGCRM. C'est vrai que j'ai lu ça. C'est TF1 qui perd. L'équipe de France. Alors, pour être plus précis, il me semble que c'est les droits pour la
Coupe du Monde.
Ouais. Donc ils ont encore les droits, mais c'est vrai qu'ils étaient déjà en alternance avec M6 pour que la douloureuse le soit un petit peu moins. Et bah là ils vont pouvoir être tranquilles parce que finalement M6 récupère a priori tous les matchs en clair. Pour cette Coupe du Monde là, donc les principales affiches plus les matchs de l'équipe de France. Donc, on va devoir peut-être écouter Jean-Marc Ferreri aux commentaires. Et ça, je ne sais pas si ce n'est pas ça la plus grosse merguez quand même. Parce que c'est quand même dur pour les oreilles. Hein. Jean-Marc Ferreri, bon, quoique, quand il commente l'OM, tu sens qu'il y a un petit peu… il pousse un peu l'équipe, hein. C'est comme Djibril Cissé qui commente Marseille dans Coupe de France sur France TV, hein. Le mec il dit on, c'est exceptionnel.
Et tu oublies Denis Belbier nous dit au JCRM, et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on pourra pas faire mieux.
D'ailleurs, je crois, quand est-ce que j'ai vu, il y avait une interview de lui, je sais plus dans quel média. Et que le mec il essaye de revenir. Bon, je sais pas si ça sera super évident, mais on sait pas. Peut-être que Sibine cherche des commentateurs l'année prochaine ou Dazone veut un commentateur. Mais étant donné que les gens ont des mémoires de poisson rouge, ça devrait bien se passer. Donc voilà. Carlos. Merci de m'avoir accompagné. Un grand coucou à Edinson qui a eu une déconnexion un peu malheureuse et forcée.
Si juste dernier point, si vous voulez nous écouter, on a sorti donc un épisode sur le vélo avec Edinson. Il y a eu un podcast sur le basket qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec un grand sujet, Victor Wembanyama. On a reçu forcément le podcast foot qui sort tous les lundis et on s'est fait un petit recis aujourd'hui. Le podcast rugby, hein, si vous voulez écouter des dépressifs sous Xanax, parler d'équipe de France, allez les écouter. Et il y a aussi la reprise du podcast F1, hein, où je sens que cette année, ça va pas. Ce qui va être le plus intéressant, ça va être pas non plus, ça va pas être la course, mais ça va être tout ce qui se passe à Santa Barbara F1.
Ouais, on essaye quand même de rester sur le sportif, mais c'est vrai que.
Mais non, le sportif, vous allez tellement vous emmerder. Sortez-nous un Santa Barbara F1, ça va être tellement bien. Entre la FOM, la FIA, les diptyques de notre ami autrichien. Il est autrichien.
Horner, je ne sais plus s'il est autrichien ou allemand.
Donc, allez écouter tous ces podcasts. Christian. On vous en a fait plein, hein, juste pour vous, sur le flux de Radio Merguez & Co. Et n'oubliez pas, 5 étoiles et les commentaires, c'est important. Pour dire qu'on est vieux, qu'on est des boomers, et mettez le petit commentaire 5 étoiles. N'est-ce pas, Arnaud ?
Tout à fait. Je n'aurais pu dire mieux. Carlos.
Bonne soirée.
À lundi pour débriefer notre belle Ligue 1 et les matchs de nos Français du jeudi.
Exactement. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.